C'est ça l'Église aussi. Et même si cela ne nous appartient pas, oui, nous faisons ce pas de foi, parce que le Seigneur nous invite à marcher avec foi. L'Église n'a aucune obligation de résultat. C'est le Seigneur qui agit souverainement. Et ça ne met en aucune manière en cause la foi de qui que ce soit, même pas pour celui qui reçoit, puisque c'est une grâce. Le Seigneur veut faire route avec ceux qui sont malades, les maladies chroniques, les longues maladies. Le Seigneur veut faire route avec ceux qui sont guéris. Un jour, je priais pour mon papa. J'étais dans mon année de stage pastoral. J'avais fini mes études. Nous sommes donc en fin d'année 2007. Et j'apprends que mon père, qui n'avait jamais été hospitalisé une seule nuit, est malade. Et nous prions pour lui, mon épouse et moi, la famille. Et un après-midi, pendant que je priais, le Seigneur a commencé à me parler d'une manière très distinctive. J'étais seul dans cette petite chambre d'étudiants que nous partageons Nadia et moi, et j'étais en pleurs. Le Seigneur était venu m'accompagner sur un chemin qui allait être difficile. Il m'a dit, je le crois vraiment comme ça, prépare-toi. Et il m'a accompagné à travers l'épreuve de la maladie très courte de mon papa, ensuite son décès. Et je me suis dit qu'il était là, comme on l'a chanté il y a quelques semaines, dans le feu, là à mes côtés. Dans la tempête, là à mes côtés. Et j'ai compris alors que le Seigneur nous donne non pas toujours ce que nous voulons immédiatement, mais dans son amour et dans sa liberté, ce qui est bon pour lui, ce qu'il a disposé. Et quand l'exaucement n'est peut-être pas ce que nous avons attendu, espéré, il nous accompagne jour après jour. Que le Seigneur accompagne chacun, chacune, là où peut-être l'exaucement n'a pas été ce qui a été espéré, attendu. Ça ne remet en rien en question votre foi et la foi de son Église. C'est important ce matin de le redire à nouveau. Et peut-être tu aurais voulu demander la prière pour toi-même, pour quelqu'un, et peut-être que tu te dis, oh, si on me laissait la possibilité de le faire. Eh bien, si tu es dans cette situation, je t'invite à te manifester. Nous voulons prendre le temps de prier les uns pour les autres. Si le Seigneur te pousse ce matin à demander la prière humble de l'Église, qui n'a aucune puissance que le nom de Jésus, oui, tu peux le faire. Tu pourrais le faire à tout moment en levant la main avant la fin de ce culte, en te faisant connaître auprès de moi. J'indiquerai les responsables de l'équipe de direction qui sont là, on prendra un temps pour toi aussi. Je voudrais nous parler d'un sujet qui n'est pas facile par les temps dans lesquels nous sommes, qui n'est pas celui-ci, mais qui est dans la continuité de l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 5, les versets 18 et suivants. Éphésiens chapitre 5, versets 18 et suivants. Savez, vous arrive de manger un bon filet de poisson, et puis à un moment donné, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a du mal à passer. Puis vous dites, ça coince. C'est un peu le sentiment que j'ai eu en préparant ce message. J'ai presque l'impression de devoir à chaque moment dit, mince alors, comment on va dire ça? Comment on va aborder ce texte qu'on n'a presque plus envie de lire? Autrefois, quand j'étais plus jeune, on le lisait souvent au moment des mariages. Et je constate quand même que de moins en moins, les couples veulent qu'on lise ce texte le jour de leur mariage. Il faut dire que l'un des sujets que le texte aborde, si on y prend garde, peut être un texte mécompris, et plus que ça, un texte qui ajouterait à la souffrance des couples plutôt que de leur apporter des ressources. Alors, nous lisons la parole de Dieu et nous la comprenons, nous l'interprétons toujours de manière contextualisée. Vaut mieux s'en rendre compte. Parce que j'entends bien, peut-être quelqu'un dirait, mais non, on la lit, point barre, pas besoin de tenir compte du contexte dans lequel on la lit, on l'écoute. Attention, elle aime elle-même une parole toujours contextualisée, dans une culture donnée, à un espace géographique donné, dans un temps donné, dans une langue donnée, à des hommes, à des femmes, d'une époque. Et nous devons avoir cette distance et ce recul nécessaire. Et partir toujours du principe que même quand on pourrait avoir des interprétations divergentes, nous sommes animés par l'amour de la parole de Dieu et par le désir de lui être fidèle. C'est important, je pense, pour des frères et sœurs, de toujours présupposer que lisant la parole de Dieu ensemble, nous avons tous le désir d'y être fidèles. Ça ne veut pas dire que nous parviendrons toujours aux mêmes convictions, aux mêmes thèses. Mais il m'est difficile à titre personnel de voir des frères et sœurs qui remettent en question la sincérité, l'honnêteté du positionnement spirituel des uns et des autres. Nous devons toujours partir de la confiance et de cette idée que nous voulons ensemble nous mettre à l'écoute de la parole par l'Esprit du Seigneur. C'est un bon point de départ, cela me semble. Ceci étant posé, écoutons la seule parole qui a l'autorité que je n'ai pas. Éphésiens chapitre 5, versets 18 et suivant. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à un comportement malfaisant, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça vient, hein ? Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Vous, les femmes, à votre mari, comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est la tête de sa femme, oui, comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter un verre d'eau ? Je ne sais pas pourquoi ce matin. Je suis dans le sud, hein. Je ne sais pas comment ni moi lis ce texte, mais bon, on va essayer. Marie, aimez votre femme tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Merci beaucoup. Ça passe un peu mieux. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Dans d'autres versions, c'est un grand mystère. Je dis moins qu'il se rapporte au Christ et à l'Église, mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Avant de m'arrêter sur la question précise de la soumission, j'aimerais nous faire remarquer ensemble, par respect du texte, que l'apôtre Paul n'y arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il commence d'abord par, d'une certaine façon, à nous adresser en creux une question. Qu'est-ce qui remplit nos cœurs? Parce que, je crois que la diapo doit suivre, c'est la première partie de ce message. Parce que ce qui remplit nos cœurs influence aussi nos relations, les uns les autres, pour le meilleur et le pire. L'apôtre Paul commence dans cette section par inviter, par donner une injonction à ses auditeurs, ne vous laissez pas remplir de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit Saint. Nous devons nous rappeler ce qui nous a été enseigné la semaine dernière par David. Paul vient d'encourager ses auditeurs, ses lecteurs, qui sont convertis au Christ et qui sont donc passés des ténèbres à son admirable lumière, à poursuivre leur cheminement spirituel dans cette lumière. Et il a rappelé que cela impliquait de se désolidariser de la conduite des païens et d'un certain nombre de comportements. On en a retenu trois la semaine dernière, l'immoralité sexuelle, l'impureté et l'envie de posséder à l'excès. David nous a dit que cela n'était que symptôme d'un mal beaucoup plus radical et profond qu'il a appelé l'égoïsme aigu ou exacerbé. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul nous dit « Attention, il y a un antidote à une vie dissolue. » Il compare donc cette vie dissolue, désordonnée, à l'état de celui ou celle qui a fait l'expérience, comme on dit vulgairement, d'une bonne cuite. Ne vous enivrez pas de vin. Ça m'amène d'ailleurs à vous poser la question, savez-vous quand pour la première fois, dans la Bible, quelqu'un se prend, excusez-moi l'expression, une cuite? Oh, ils sont plutôt bons. Noé, dans un contexte de bénédiction et de recréation, puisque le monde d'alors avait été détruit par les eaux du déluge, Dieu fait une nouvelle alliance avec Noé et sa famille. Noé reprend sa vie et il plante une vigne. Ça doit parler ici, hein, les vignes. Mais il avait moins de recul que nous. On ne connaissait pas encore, on peut supposer en tout cas, là je suis dans une conjecture, je dois me méfier. Ce que le texte dit rapidement, c'est qu'il va boire son vin et qu'il va être ivre. Et comme souvent ça donne chaud, il va se dénuder et il va se mettre sous sa tente tout nu. Cette histoire qui peut nous paraître anecdotique est sans doute l'une des histoires les plus manipulées de tous les textes bibliques. Parce que quand même, cette histoire va se terminer par une colère terrible de Noé quand il va apprendre ce qui s'est passé. Et il va maudire, non pas Cham, mais Canaan, c'est-à-dire son petit-fils. Et c'est le début d'un questionnement incroyable. Mais pourquoi Noé a maudit Canaan? J'ai moi-même travaillé mon mémoire de fin d'études à Vaux-sur-Seine de Master 2 sur cette question de la malédiction de Canaan. Ce qui m'a intéressé, c'est comment on est passé de la malédiction de Canaan dans ce texte à la malédiction des Noirs. Puisque ce texte a été beaucoup utilisé pour expliquer l'esclavage. Et tout était parti d'un faux pas, d'une ivresse. Alors le texte biblique ne le dit jamais. Mais toutes les manipulations et les instrumentalisations du texte biblique, par la suite, ont légitimé tout un tas de comportements terribles. Mais là n'est pas notre sujet. Paul prend l'exemple de l'ivresse, me semble-t-il, parce que c'est un exemple qui montre comment on peut être dépossédé d'une certaine façon de notre dignité, de notre bon sens, lorsqu'on est rempli par quelque chose qui n'est pas pour le bien. Et on pourrait symboliquement se questionner sur toutes les formes d'expériences enivrantes que notre société voudrait nous proposer, nous suggérer. Vous connaissez cette tragédie autour des gaz hilarants. Vous voulez planer, vous voulez échapper peut-être à la difficulté de l'existence. Vous voulez être dans une ivresse peut-être de joie, d'amour. C'est possible. Mais qu'est-ce qui va vous remplir ? L'apôtre Paul dit, ne vous remplissez pas, ne tombez pas dans cette quête d'expérience enivrante par toute forme de liquide, de substance. Il a mieux pour nous. Dieu a mieux pour nous. Il nous propose au contraire que nous soyons remplis par l'Esprit Saint. Alors, il nous invite à vivre cette expérience de la plénitude de l'Esprit Saint. Soyez remplis de l'Esprit Saint, c'est même un ordre. Dieu ordonne ce qu'il veut nous donner. Ce n'est pas s'il vous plaît, c'est soyez remplis de l'Esprit Saint. Et en même temps, le verbe est dans une forme passive. Soyez, laissez-vous remplir. Laissez-vous remplir. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes nous remplir. Mais nous sommes invités à nous laisser. Laissez-vous remplir de la plénitude de l'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu. Et Paul nous a déjà dit que Dieu a fait habiter la plénitude de qui il est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Esprit Saint est appelé également Esprit de Dieu, Esprit du Christ aussi dans d'autres passages. Nous ne savons pas très précisément à quoi correspond cette expérience, mais le théologien français Henri Blocher s'était penché en son temps sur la question, il avait d'ailleurs écrit un article dessus. En étudiant attentivement le vocabulaire de la plénitude, il nous rend attentifs au fait que Luc, notamment, qui est un auteur qui en parle beaucoup, utilise deux mots grecs qui ne sont pas tout à fait les mêmes, pimplemi et pléroo. Et il constate que dans l'usage que Luc a de ces deux mots, de ces deux verbes, souvent l'un désigne la plénitude au sens d'expérience soudaine. Un afflux, nous dit Henri Blocher, du don de l'esprit, ici et maintenant, en vue d'accomplir une mission en lien avec l'annonce de la parole de Dieu, par exemple. Dieu remplit son serviteur pour proclamer sa parole. L'apôtre Paul pouvait dire, prier pour que je puisse avoir de l'hardiesse pour l'annoncer. Une plénitude particulière, circonstanciée, pour que la sagesse de Dieu soit donnée à son peuple de manière évidente. Plénitude soudaine. Mais concernant notre passage, le professeur Blocher l'inscrit dans ce qu'il appelle la plénitude durable. Je reprends ces termes. Une imprégnation, une saturation du caractère chrétien par la présence du Saint-Esprit. Cet état qui va avec la fermeté de la foi, l'assurance de la foi, la constance de la joie, c'est quand même une sinécure d'être chrétien. C'est quelque chose qui nous remplit de joie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves et des larmes. L'apôtre Paul pouvait dire, et chacun de nous peut-être, dans une moindre mesure, peut aussi le dire, vous avez connu mes larmes. Il disait à Timothée, tu as vu mes larmes, tu as connu mes combats, mes luttes, mes souffrances. Mais la joie est fondamentalement l'un des aspects qui caractérise, qui colore l'être chrétien, l'être en Christ. Blocher dit que cette plénitude durable produit donc la fermeté de la foi, la constance dans la joie, l'équilibre de la sagesse. Bref, elle va avec la permanence du fruit de l'esprit. Et cette plénitude durable, cette diffusion, si j'ose utiliser cette image, cette diffusion continue de l'Esprit Saint au sein de la communauté accompagne l'Église tout au long, et la vie des chrétiens tout au long de leur cheminement. Et celle-ci est à rechercher continuellement. Il s'agit, pour l'apôtre Paul, de nous inviter à prendre conscience que Dieu nous a déjà donné toute sa plénitude en Jésus-Christ et que par le Saint-Esprit, Dieu nous appelle à nous laisser remplir, tout simplement. Venez, vous qui avez soif. Oui, c'est comme s'il nous disait simplement, c'est à vous, c'est déjà là. Mais est-ce que je me laisse remplir? En tout cas, si tu voudrais savoir ou si je voudrais savoir si je me laisse remplir par l'Esprit Saint, l'apôtre Paul nous suggère quelques éléments objectifs. Là où l'Esprit Saint remplit ou sature l'atmosphère, l'environnement de l'Église, là où l'Esprit Saint nous met sous son influence, ça produit son fruit. Et le fruit de l'Esprit, que je sache, c'est l'unité, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la sagesse, c'est tout ceci. Mais dans le contexte d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous montre que le fruit de cette plénitude de l'Esprit, lorsqu'elle est active dans l'Église, elle se manifeste par le fait que nous sommes de moins en moins égocentrés, mais de plus en plus christocentrés. L'Esprit Saint, témoin véridique du Christ, prendra les paroles de Jésus et nous les appliquera. Voilà pourquoi la parole de Christ est ici nommée par l'apôtre Paul dans toute la diversité, dans toute sa diversité. Encouragez-vous par des psaumes, que je sache c'est l'écriture, psalmodiez, par des hymnes et des cantiques. Là où l'Esprit remplit nos cœurs, nous grandissons dans notre adoration et dans notre louange. Là où l'Esprit remplit nos cœurs, nous nous approprions de plus en plus la parole de Jésus-Christ. Là où l'Esprit remplit nos cœurs, notre langage change. On ne dit pas « Wow, il a un langage fleuri », vous savez que ça, ce n'est pas un compliment. Parce qu'en général, ça veut dire qu'il est très vulgaire. Mais on dit, waouh, quand ces gens sont parmi nous, il se répand la bonne odeur du Christ. Mais l'apôtre Paul continue dans son exhortation. La plénitude de l'Esprit va aussi se manifester concrètement dans les relations sociales, en Église. Vous vous soumettrez les uns aux autres, ou alors vous soumettant les uns aux autres. Ah! Je n'avais pas vu ça comme ça. Je n'avais pas vu que la soumission pouvait être un critère de discernement de là où l'Esprit agit. Mais quelle soumission ? Soumission réciproque, pardon, si vous me suivez, merci. Point d'interrogation. Alors, il nous faut revenir au verset 21. Vous soumettant ou soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Alors ce verset soulève trois difficultés. Premièrement, et vous le remarquerez assez vite si vous ouvrez plusieurs éditions de Bible, vous verrez que les Bibles ne découpent pas de la même manière. Certaines ont un point après le verset 21 et une deuxième section commence avec le verset 22. D'autres, c'est l'inverse. Et d'autres encore partent du verset 18 jusqu'à la fin sans découpage. Pourquoi ? Parce qu'on se pose la question de savoir comment positionner ce verset 21. Deuxième problème, c'est que les mots ayant plusieurs significations souvent, la polysémie, on ne sait pas trop quel sens il faudrait donner au verbe que l'apôtre Paul utilise, le verbe hypotasso, le verbe grec dans l'original. Et troisièmement, ici je voulais indiquer, pardon, il faudrait revenir sur cette slide, on ne sait pas comment comprendre la notion de soumission les uns aux autres, c'est-à-dire ce pronom réciproque, allélon, que l'apôtre Paul utilise dans ce texte grec, en grec. Trois problèmes, un seul verset déjà. Alors, m'excuserai, mais je vais aller un peu vite parce que le temps, par ailleurs, nous tient. Alors, pour la première difficulté, on peut passer directement à la slide suivante. Je nous donne ici le texte. Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Vous voyez qu'ici, il y a une virgule. C'est par exemple le choix que fait la Bible d'étude du sémeur. La première option, il y a deux grandes options, c'est de considérer que le verset 21 se rattache au verset précédent, auquel cas on lirait le verset 21 comme la conclusion de l'exhortation que j'ai rapidement rappelée que l'apôtre Paul nous a adressée. Sous l'influence de l'Esprit, vous chanterez des cantiques, sous l'influence de l'Esprit, vous grandirez en action de grâce. Sous l'influence de l'Esprit, vous vous soumettrez les uns aux autres. Point. Deuxième section, à partir du verset 2. Ça, c'est l'option 2. Qui veut raccrocher le verset 22 à ce qui va suivre par la suite? Alors, quoi qu'il en soit finalement, même si ça change quand même quelque chose. Pourquoi? Parce que la seule fois où il est question du verbe hypotasso, j'y reviendrai, c'est au verset 21. Et que dans les versets 22 et suivants, l'apôtre Paul ne reprend jamais ce verbe. S'il est repris dans nos traductions françaises en général, c'est qu'on rend le sous-entendu explicite. Mais commencer le verset 22 par l'injonction « Femmes, soyez soumises » vient quand même biaiser l'unité interne du texte puisque le verset 21 seul parle de la soumission et on va constater que la soumission Paul l'accompagne de les uns aux autres. Ce n'est quand même pas rien à remarquer. La Bible du Semeur, en particulier, a choisi donc de mettre la virgule à la fin du verset 20 et 21, considérant que c'est la même phrase qui est débutée plus haut, c'est-à-dire au verset 18, et qui se poursuit pratiquement jusqu'au verset 22. Alors, je résume ainsi rapidement une voie presque moyenne, on pourrait considérer que le verset 21 en question a une sorte de fonction pivot. Que d'une part, le verset 21 est une conclusion peut-être partielle de l'exhortation de l'apôtre Paul, mais en même temps le voir comme déjà une introduction aux situations que l'apôtre Paul va aborder. Autrement dit, le verset 21 poserait un cadre général, la soumission les uns aux autres, et à partir du verset 22, l'apôtre Paul entre dans des problématiques particulières, les maris, les femmes, les parents, les enfants, les esclaves, les maîtres, quelque chose qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les tables domestiques ou les codes domestiques. Ce n'est pas juste l'apôtre Paul qui a utilisé ce style, on retrouve plein de textes qui visent à organiser les bonnes relations dans la maisonnée, en distinguant bien les différentes catégories de personnes qui vivent dans la maisonnée, le couple, la relation parent-enfant, la relation esclave-maître. Alors, la question est de savoir comment comprendre maintenant cette notion de soumission. Le verbe que l'apôtre Paul utilise ici peut avoir plusieurs significations. Le verbe « soumettre » qui est du reste utilisé 31 fois dans le Nouveau Testament, est utilisé 21 fois sur les 31 par l'apôtre Paul. Donc il est quand même le champion d'utilisation statistiquement de ce verbe-là. Ce qui n'est pas quand même une aberration quand on sait qu'il est par ailleurs celui qui a écrit un quart des livres du Nouveau Testament. Donc le corpus paulinien est aussi beaucoup plus important. Donc le vocabulaire qu'il utilise aussi plus. Mais ce qui nous importe, c'est de voir que, et je me suis donné la peine de lire ici, chaque verset biblique dans lequel ce verbe hypotasso est utilisé. quelle que soit la conjugaison, en essayant de me rapprocher le plus du contexte de chaque verbe, de chaque livre. Alors, je dois dire que, comme d'ailleurs beaucoup avant moi l'ont remarqué, chaque fois que le verbe hypotasso est utilisé, il implique l'idée d'une subordination unilatérale. Et d'ailleurs, si on ne veut pas faire la recherche dans tous les livres et qu'on veut simplement voir comment Paul l'utilise dans l'Épître aux Éphésiens, alors il faut revenir aux deux seules fois où Paul en parle, c'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 22 et dans ce passage. Or, dans Éphésiens chapitre 1, verset 22, je ne sais pas si le texte va être affiché, qu'est-ce que Paul nous dit ? Paul nous dit que Dieu a mis, c'est le même verbe, hypotasso, toutes choses sous les pieds du Christ et il a donné à l'Église comme chef suprême. Hyper, on le comprend, hyper, c'est, ça monte. Hein. Hypo, c'est en bas, ça descend. Tasso, ou titemi, le verbe pour placer. Littéralement, placer sous. Vous pouvez tordre ça comme vous voulez, mais c'est implacable. C'est placé sous. C'est hypo, tasso, placé en dessous. Et ici, dans ce verset du chapitre 1, verset 22, l'apôtre Paul fait référence à deux passages qui ne sont pas cités des psaumes. Le psaume 8 est en arrière-plan de cette citation et le psaume 110. Or, ces deux psaumes, le psaume 8 nous dit que Dieu a fait de peu inférieur aux anges le Fils de l'homme. La tradition chrétienne y a vu l'annonce de la venue du Christ qui, pour un temps, s'est fait plus petit même que les anges. Il nous a rejoints et il s'est présenté comme le Fils de l'homme. Mais le psaume 110 nous dit que celui-là, l'homme selon le cœur de Dieu, a été élevé comme roi. Et il dit, prends place, tu es intronisé, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis marche-pied comme un escabeau sous tes pieds. Donc la littéralité même de ce passage, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, vient renforcer ici la compréhension de ce verbe hypotasso, vraiment dans son sens, j'ai envie de dire premier, être placé sous. Alors, nous sommes tous, en tant que disciples du Christ, placés sous un chef, sous une autorité. Et cette autorité, c'est le Christ lui-même, puisque l'apôtre Paul nous dit que Dieu l'a donné comme tête à son Église. La tête ici, Kephalée, a été là aussi l'objet de beaucoup de débats. Elle peut être traduite comme source, comme origine. C'est la traduction que Bilésikien Gilbert a préférée. Mais là aussi, je pense être plutôt dans la ligne de ceux qui ont pu démontrer que Kephalée, lorsqu'il est utilisé ici par l'apôtre Paul, a toujours le sens de tête, métaphoriquement, qui renvoie à l'idée de chef, comme le couvre-chef. Mais si Christ est le couvre-chef, si Christ est l'autorité, qu'en est-il ? Et que la soumission que nous avons au Christ est une soumission unilatérale. Il serait incompréhensible de dire que le Christ est dans une soumission réciproque avec son Église. En effet, le Christ ne se soumet pas à son Église. C'est l'Église qui se soumet dans une obéissance voulue au Christ. Mais alors, qu'en est-il dans le corps ? Nous sommes membres les uns les autres. Et il me semble que c'est là qu'il faut faire attention, de ne pas trop presser l'analogie, ni dans le cadre du couple, ni dans le cadre de l'Église locale. Il n'y a pas de bicéphalisme dans l'Église. Il n'y a qu'une seule tête. C'est le Christ. Aucune autre tête ne peut s'élever à côté de lui. Même si elle se mettrait un peu en dessous. Non, il n'y a qu'une seule tête. C'est le Christ. En revanche, dans le cadre de nos relations les uns les autres, l'apôtre Paul semble me conduire sur la voie d'une soumission réciproque. Parce que précisément, il faudrait nous expliquer pourquoi il dit « vous soumettant les uns aux autres ». Là aussi, j'ai regardé, 94 fois, on trouve dans le texte biblique, Nouveau Testament, « les uns aux autres », 94 fois. 52 fois, Paul utilise les uns les autres. Et ce pronom de réciprocité vient précisément toujours servir une idée forte que l'apôtre Paul a de l'Église, c'est qu'elle est le corps du Christ. Et que par cette idée de les uns les autres, il fait de nous des membres qui sont en solidarité les uns des autres et en interdépendance. Et cette interdépendance est telle que ma jambe gauche ne peut pas dire à ma jambe droite « barre-toi, je m'en fous de toi ». Ni mon œil à mon oreille. Et donc, cette soumission en quelque sorte réciproque de mes membres et de nous tous en tant que membres du Christ participe de l'harmonie même du corps. Si on s'intéresse à l'expression « les uns les autres » dans l'Épître aux Éphésiens, on se rend compte que l'apôtre Paul l'utilise au moins trois fois, rien qu'au chapitre 4. Et une quatrième fois, c'est notre texte. Rien que dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 2. « Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres. » C'est-à-dire, portez-vous vers le haut, tirez-vous vers le haut les uns les autres. Avec amour. Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. On n'est pas seul. Il y a une solidarité, ce qui amène certains à suggérer de traduire se soumettre par être solidaires les uns des autres. Mais j'ai déjà dit que la réalité factuelle est têtue, c'est toujours être subordonné. Mais au Christ d'abord et avant tout. Et en ce qui concerne la communion des uns et des autres dans le corps du Christ, il me semble que l'apôtre Paul pose ici le principe d'une soumission mutuelle ou réciproque. Éphésiens chapitre 4, verset 32. « Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. » À quelques exceptions près où Alléluia ne veut pas dire les uns et les autres, on est toujours, dans le contexte des Éphésiens en quelque sorte, dans un pronom qui implique cette réciprocité. Et donc la soumission à laquelle le principe général qui est posé est celui de la soumission réciproque, mutuelle. Et c'est donc volontairement, me semble-t-il, que Paul positionne d'abord le cadre de la soumission, j'ai envie de dire mutuelle, les uns les autres, avant de s'attaquer de manière plus précise à la soumission de l'épouse à son mari. La soumission mutuelle, je voudrais encore dire un mot, je vous cite ici le livre de Valérie Duval-Poujol, il me semble que c'est une enfant qui a grandi dans cette église, qui est maintenant une théologienne baptiste. La Bible est-elle sexiste ou elle développe un certain nombre d'arguments? Donc je vous renvoie à ça. Elle dit quelque chose quand même que je trouvais éclairant. La soumission mutuelle gomme les différences hiérarchiques. Seuls les égaux se soumettent les uns aux autres. Ça me semble être une affirmation qu'il faut poser. Il est donc impératif de lire le verset 22 à la lumière du verset 21. Donc on voit de quel côté de l'échiquier elle se positionne. Il s'agit d'une soumission mutuelle. Alors parlons un peu de cette soumission mutuelle en revenant au verset 22 et suivant. « Vous les femmes, à votre mari, car le mari est la tête de sa femme. » Vous rappelez que la seule fois où l'apôtre Paul utilise explicitement le verbe « se soumettre », c'est au verset 21, et que tout le reste de la fois, il est sous-entendu. Partant de là, on peut quand même faire une remarque déjà. Il ne dit pas « mari, soumettez vos femmes », mais « femmes ». Soyez soumise. Remarquons donc que l'apôtre Paul considère cette soumission non pas comme une obéissance servile, mais comme une démarche volontaire, intentionnelle, libre, de se placer sous la subordination de l'autre. Ce n'est quand même pas la même chose. L'esclave n'avait pas ce choix-là. Si vous voyez un peu la différence. Il est clair que sans le verbe soumettre, qui est sous-entendu, Et même si Paul ne le reprend pas explicitement, il envisage ici la soumission comme la reconnaissance de la place de chacun. On pourrait comprendre ce que Paul dit comme l'encouragement aux épouses, et après on va voir pour les époux, à reconnaître la place de chacun pour qu'il ait de l'harmonie. Or, il le dit dans un contexte social où les relations entre les hommes et les femmes sont inégalitaires. Alors, il me semble que l'apôtre Paul avait le souci de l'ordre social, je le vois à plusieurs reprises dans le corpus de ses textes. Il avait tellement le souci qu'on ne voit pas les chrétiens comme ceux qui veulent renverser toute la société, qu'il a souvent dû, en quelque sorte, trouver un équilibre subtil entre le maintien d'un ordre social existant et la nécessaire prise en compte du fait qu'être en Christ impliquait d'être dans un autre type de relation, une relation de fraternité. Mais cette relation de fraternité elle-même ne devait pas venir complètement changer l'ordre social. Un exemple, c'est l'esclavage. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi on tient tant à affirmer la soumission des femmes et on ne dit pas qu'il faut recommencer l'esclavage? Parce que l'apôtre Paul n'a pas eu un seul mot pour abolir l'esclavage. Et je ne lui en tiens pas rigueur. Dans son contexte, à lui, c'était dans l'ordre des choses sociales. Mais par contre, il a eu des mots, il a eu des paroles tellement fortes que si Onésime et Philémon s'appropriaient sa parole, finalement, ils devenaient frères en Christ. Même si sur un plan juridique, l'apôtre Paul continuait de considérer que Onésime est l'esclave de Philémon. C'était des frères en Christ. Vous imaginez qu'on peut avoir ce type de relation dans l'Église aujourd'hui? Sur le foulard. Là aussi, un exemple de contextualisation. Pourquoi on ne porte plus les foulards sur la tête? Je ne dis pas les chapeaux, je ne dis pas les petites. Non, le foulard. Je suis allé en Roumanie il y a quelques années, j'ai vu qu'ils en portaient encore. Et que les hommes étaient assis d'un côté, les femmes de l'autre côté. Contextualisation différente de la parole de Dieu suivant les lieux, suivant les contextes. Il me semble que c'est la même chose ici, en substance. Dans une société aux relations hiérarchisées, l'apôtre Paul essaye de trouver le juste équilibre. Et le juste équilibre ici, suivant la pensée que l'Esprit lui communique, c'est d'inviter les femmes à respecter leur mari. C'est d'ailleurs comme ça qu'il conclut cette section au verset 33. Et quand il parle de respect, il reprend le même terme que pour le Christ, phobos. La motivation qui change, c'est que la femme, ou l'homme d'ailleurs, dans ce qui leur sera demandé, seront motivés, non pas par le souci d'être irréprochables en société, mais par le souci de plaire au Christ, à cause du respect que vous avez pour le Christ. Alors, l'apôtre Paul est donc conduit à ne pas bousculer l'équilibre fragile qu'il y a en son temps. Il reconnaît que l'homme est la tête au sens de chef. Mais vous reconnaîtrez également que nous vivons dans un contexte juridique où ces notions n'existent plus. Aujourd'hui, c'était dans le droit civil français et ça a été modifié. Il faut souligner que la notion de chef pour Paul n'impliquait pas cette culture de la domination du masculin sur le féminin. C'est vraiment important de le dire. Je crois que Paul, au contraire, a voulu s'inscrire dans les pas du Seigneur Jésus, qui s'est entouré de beaucoup de femmes, qui allait beaucoup plus loin que sa propre culture de référence ne le permettait. Et je pense qu'il suffit de lire les lettres de Paul pour voir combien il prend en estime le ministère de Priscille et d'Aquilas, de Andronicus et de Junia, des femmes comme Phoebé, comme Lydie, ont été des collaboratrices de premier rang avec l'apôtre Paul. Je crois donc que c'est un mauvais procès qu'on fait à l'apôtre Paul lorsqu'on dit qu'il est sexiste, macho. C'est précisément ne pas le comprendre. C'est un anachronisme même culturel. C'est ne pas comprendre Paul et ce n'est même pas comprendre la société dans laquelle Paul a vécu. Et c'est de ne pas voir, à juste titre, le progrès que Paul, à la suite du Christ, a consolidé. Se soumettre, c'est reconnaître la place de l'autre. Et dans cette société, c'est reconnaître également, dans cette société à laquelle Paul parle, c'est reconnaître également l'autorité qui était associée aux places. Et la soumission n'est pas un attribut de la femme exclusivement. Quand nous lisons Romains 13, un autre exemple, l'apôtre Paul nous dit qu'on soit homme ou femme, soumettez-vous. Soumettez-vous à qui ? Aux autorités. Est-ce que si je suis arrêté par une commissaire de police, je ne vais pas me soumettre parce que la femme ne doit pas avoir autorité sur l'homme ? Alors ça va mal passer. Hein. Je vous le dis tout de suite. Tout de suite. Hein. Tout de suite. Et ce n'est même pas une commissaire, même une gardienne de la paix. Parce que c'est le plus souvent eux qui vont vous contrôler. Paul dit non. Que tu sois homme ou femme, soumettez-vous dans la société aux autorités. Et on a tendance de dire, oh mais ces autorités, est-ce qu'elles ont été établies par Dieu ? Parce que vraiment, elles n'avaient pas grand-chose de chrétien. L'apôtre Paul dit, soumettez-vous. On voit le souci que l'Église ne soit pas perçue. Dans une société où on leur avait déjà collé l'incendie de Rome sur le dos, comme des fouteurs de troubles. Et pour cette raison même, il les invite à reconnaître la place de chacun. Il n'est pas en train de dire, soyez dans une obéissance bête, idiote, servile, écrasez-vous, simplement ne dites rien. Non, il est en train de dire, reconnaissez la place de chaque autorité et les prérogatives qui lui sont accordées. Et c'est la même chose qu'il demande ici à nos chères sœurs dans sa société. Reconnaissez la place des maris et de l'autorité qui leur est accordée. Alors, le modèle vers lequel l'apôtre Paul pointe pour les maris, et on devrait noter d'ailleurs la disproportion dans le discours, quelques phrases pour les épouses, autour de la soumission et du respect, et un long pavé sur les messieurs. Comme si l'apôtre Paul pressent que cette autorité qu'ils ont dans leur société à cette époque-là, eh bien, elle peut vite aller vers l'abus. Alors il prend le temps de mettre un tempérament pour essayer de réguler cette autorité. Et sa façon à lui de réguler cette autorité, c'est de dire, regardez comment le Christ lui-même a vécu l'autorité. En un seul passage, quelques versets, du verset 25 au verset 29, regardez à quelle reprise arrive le verbe aimer. 6 fois au moins. Et ce n'est pas n'importe quel verbe que Paul choisit. Il choisit agapeo. L'agapé, l'amour d'initiative divine. Cet amour que Dieu lui-même nous a manifesté en Jésus-Christ. L'amour agapé, c'est l'amour qui se donne pour le bien de l'autre. L'amour agapé, c'est l'amour qui se met au service de l'autre, par amour pour lui. Et c'est ce que le Christ a fait. Diapo suivante, dont la question pour nous n'est pas de savoir, en sortant ce matin, finalement, le pasteur a dit quoi ? Qui porte le pantalon ? Ou qui porte la jupe ? Je ne vous dis pas qu'en rentrant, il faut prendre 2 papiers, jupe, pantalon, secouer, et puis dire, tu tires, je tire. Alors toi, c'est quoi ? Ah, moi, cette semaine, c'est moi qui porte le pantalon. Et toi, la jupe. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Ce n'est même pas le sujet vraiment de Paul. C'est devenu un sujet pour nous, à cause aussi du contexte dans lequel nous vivons. Mais le sujet de Paul, et la question que j'aimerais nous laisser, nous les coupe, le sujet de Paul, c'est est-ce que le lien qui m'unit à mon épouse, à mon époux, reflète le lien qui unit le Christ à son Église ? C'est la question fondamentale que nous devons nous poser ce matin. Nous qui sommes mariés, ou même nous qui voulons nous préparer au mariage, est-ce que ce que nous désirons, jeune homme, c'est que je sois comme le Christ pour l'Église ? Et mademoiselle, est-ce que ce que je veux, c'est l'honorer, le respecter comme le Seigneur ? Waouh, c'est là le véritable enjeu de ce passage. Comment le Christ nous a aimés en se donnant lui-même pour nous. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'apôtre Paul a commencé le chapitre 5, en nous exhortant tous, hommes ou femmes, à imiter Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Jésus s'est donné pour nous. Lui qui est le Seigneur et la tête indiscutablement, comment il a exercé son autorité dans l'amour et dans le service. Vous m'appelez maître Seigneur, je le suis, mais je me fais serviteur, je m'abaisse, je lave vos pieds. La question pour les hommes comme pour les femmes, c'est est-ce que je vis ça dans mon couple? Comment je peux manifester mon amour? L'amour de Jésus-Christ. L'amour que j'ai pour le Christ. L'amour que le Christ m'a manifesté. Comment je peux le manifester aujourd'hui à mon épouse, à mon époux? C'est ça le questionnement auquel le texte nous conduit. Ce n'est pas de regarder comme une chasse gardée cette notion d'autorité. L'autorité, nous dit Anna Arendt, c'est ce qui élève, c'est ce qui augmente, c'est ce qui fait grandir l'autre. Et Jésus a exercé une autorité saine, nous l'avons vu dans l'Épître aux Éphésiens, parce qu'il a fait grandir l'Église, parce qu'il tire l'Église vers le haut. Et tout le rituel qui est rappelé ici du bain et de la purification, de la préparation de l'épouse, nous montre que c'est pour qu'elle paraisse devant son mari, son époux, le Christ, dans ses plus belles, dans ses plus beaux traits, dans sa plus belle apparence. Donc la question c'est, est-ce que mon autorité est une autorité qui frappe? Est-ce que mon autorité est une autorité de violence psychologique, d'humiliation? Est-ce que mon autorité est une autorité de violence physique? Est-ce que mon autorité est une autorité d'abus spirituel? Est-ce que mon autorité est une autorité qui provoque la phobos, la phobie? Non pas la phobie au sens noble. C'est-à-dire, est-ce que dans notre relation, on est encore motivé par l'agapé ou par la peur? Est-ce que j'ai la peur au ventre quand je pense à lui ou quand je pense à elle? Quand j'entends la voiture ou quand j'entends qu'il rentre ou qu'elle rentre? Qu'est-ce qui se passe là? On dit à cause de la crainte que vous avez du Seigneur, à cause de la phobie. Mais ça n'a plus de sens de traduire comme ça. Vous voyez que ne s'agit pas juste de dire en grec c'est phobos. Aujourd'hui, la phobie prend un autre sens. Alors que là, c'est quasiment la notion hébraïque de la crainte du Seigneur. Le grand respect que j'ai pour le Seigneur. Est-ce que quand je vois l'autre, mon conjoint, mon époux, mon épouse, est-ce qu'en m'approchant de lui, j'ai cette crainte du Seigneur à travers cette personne? Voilà les questions que nous devons tous nous poser. Jeune couple, couple en formation ou couple au long cours? L'amour, agapé, élève l'autre. L'amour, agapé, n'abuse pas de l'autre. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons simplement te demander, Seigneur, de venir nous donner à chacun, à chacune, d'être à la hauteur de ton amour. Cet amour qui se donne pour l'intérêt et le bien de l'autre. Cet amour qui se met au service de l'autre. Cet amour qui fait grandir l'autre. Nous te prions pour tous les couples de notre Église, afin que tu viennes leur donner par ta parole et par l'interpellation de ton Esprit Saint de se rappeler que si tu as voulu le mariage, c'est pour donner à voir, comme par anticipation, la belle relation que tu entretiens avec ton Église. Seigneur, que nos familles, que nos couples reflètent cette réalité. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur et nous t'en demandons pardon du fond du cœur. Tu connais les échecs, y compris dans ce domaine-là. Tu connais les ruptures dans lesquelles nous vivons. Tu connais les abus dans un pays où tous les 2 jours et demi, une femme est tuée sous le coup de son conjoint ou ex-conjoint. Nous te prions, en ton Église, de venir instaurer des relations différentes, des relations plus ajustées, des relations qui sont plus tournées et motivées par ton amour respectueux de chacun. Seigneur, revêt-nous de tes sentiments d'humilité afin que nous puissions considérer l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Je laisse la parole au président avec toutes mes excuses.
Juste un peu débordé, mais tout va bien. C'était tellement riche.